service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or de l'ami qui vous veut du bien.
Mesdames et messieurs, bienvenue ce soir dans la SAV Arena pour le combat de l'année, pour ne pas dire du siècle, opposant les 6 prétendants au SAV d'or de l'ami qui vous veut du bien, récompensant la plus belle phrase assassine de la saison. Bref, un beau combat d'enfoiré en perspective. Et le premier à rentrer dans l'arène n'est autre que Rémy Víctor Argasuari Escudero, que vous connaissez également mieux sous le nom de l'Acarisseur de Barcelone. L'Espagnol d'1m80 pour 65 kilos, les bras levés, s'est qualifié pour le combat du siècle en infligeant un chaos debout à son sparring partner de chez Red Bull, l'Australien Mark Webber. Il faut dire que le Wallaby n'a pas su se remettre du coup infligé par son cadet qui assurait qu'il était régulièrement à une demi-seconde derrière son coéquipier, il serait déjà à la porte. Ah mais non, ce n'est pas le jeune Rémy qui se cache en fait sous ce peignoir aux couleurs de la Roja, mais Fernando Alonso, on nous informe en effet que l'écarisseur de Barcelone a été disqualifié, il devait sans doute être trop lent. L'Espagne sera donc bel et bien représentée dans ce combat de haute volée avec le taureau des Asturies, Los Toros de Asturias, double détenteur de la ceinture des champions poids lourds. La Madone Maranello, comme on l'appelle aussi chez nos amis italiens, s'est en effet facilement qualifiée pour ce match en affirmant que quand on est pénalisé 6 fois au cours d'une même saison, on ne parle plus d'un cas isolé ni de malchance. Malgré le coup encaissé, Lewis, le destructeur, l'atomiseur, l'annihilateur, barré les mentions inutiles, a été repêché par le jury pour l'ensemble de son œuvre cette saison, enchaînant uppercut, crochet du droit, direct du gauche et même son fantastique backfist. Il faut reconnaître que la saison du kid de Woking a commencé sur les chapeaux de roue, puisqu'il avait asséné dès les qualifications un coup ravageur contre Red Bull, dont il affirmait qu'il ne s'agissait que d'un vendeur de canettes. Le combat l'opposant à Christian Horner avait pourtant tenu toutes ses promesses jusque-là, cri-cri, bras d'acier, encaissant les coups les uns après les autres, même acculé dans les cordes, et se jouant des coups de son rival grâce à son légendaire jeu de jambes, que même Mohamed Ali en personne aurait pu lui envier. Enfin, surtout ses Geox. Mais malheureusement, dans la 7e reprise, le Britannique s'est trompé d'adversaire en assenant ce qu'il pensait être le coup du chaos en déclarant que personne n'avait eu l'occasion de constater la lenteur des Mercedes. Comme pour Lewis, le destructeur, l'atomiseur, l'annihilateur, barré les mentions inutiles, Christian Horner a bénéficié de la clémence du jury qui ne voulait pas priver le public de la SAV Arena d'un tel champion. Oh mais oulala, mais que se passe-t-il au pied du ring? Mais c'est incroyable, Felipe Massa, alias le fantôme de Sao Paulo, assène un coup en douce à son compatriote, Aaron Rubens, qui disputait là sans doute son dernier match en carrière. Pas sûr que le juge arbitre apprécie le comportement de l'étalon brésilien, et encore moins sûr qu'Aaron Rubens s'en relève de sitôt. Il ne nous reste plus que Timo Glock, l'ogre de la S, cette petite région d'Allemagne que personne ne connaît, qui a intégré la catégorie des poids mimouches depuis qu'on lui a retiré l'appendice. L'Allemand se fait attendre, donc on va l'attendre dans ce cas. Bon, ça serait quand même bien qu'il se manie un petit peu le cul, de Timo, là. C'est quand tu veux, Timo, hein. Hein? Oui? J'écoute? Ah! Ah, mais quel coup de théâtre! Timo Glock vient de mettre KO tous ses adversaires puisqu'il est parti prendre un café! Quel retournement de situation, ses adversaires et le public sont complètement sonnés. C'est de loin le match le plus insolite que nous ayons eu à commenter. À vous Shinji, à vous Cognac G.
Donc, les nommés au SAV d'or de l'ami qui vous veut du bien. Felipe Massa pour le conseil que je donnerai à Rubens, c'est d'arrêter. Rémy Argasuari, à propos de Weber, si j'étais régulièrement une demi-seconde derrière mon équipier, je serais déjà à la porte. Fernando Alonso, si vous êtes pénalisé 6 fois au cours d'une même saison, on ne parle plus d'un cas isolé ni de malchance. Timo Glock, j'ai le sentiment que nous pourrions laisser tomber tous les tests et simplement prendre un café. Christian Horner, suite à un double abandon de Mercedes, personne n'a eu l'occasion de constater leur lenteur. Lewis Hamilton, Red Bull, ce n'est pas un constructeur, c'est un vendeur de boissons.
Et le vainqueur est... Ah, intéressant. Mais je vais commencer avec un peu de suspense en commençant par le dernier. N'a pas gagné Felipe Massa, 8 voix pour le Brésilien seulement, 7,62%. En cinquième position avec 16 votes, Timo Glock, avec 17 votes, 16,19% des voix. Alonso, à propos d'Hamilton, déclarait « Si vous êtes pénalisé 6 fois au cours d'une même saison, on ne parle plus d'un cas isolé ni de malchance. » Avec 20 votes, Rémel Guarcioari récolte 19,05%. Et le match pour la victoire se joue donc, Shinji, entre Lewis Hamilton et Christian Horner. Et je rouvre l'enveloppe que je viens d'ouvrir.
Parce qu'il y a une autre enveloppe dans l'enveloppe.
Voilà. Et le vainqueur du SAV d'or, de l'ami qui vous veut du bien, récompensant la plus belle phrase assassine de la saison, est attribué à... Lewis Hamilton pour sa réflexion sur Red Bull où il déclarait ce n'est pas un constructeur, c'est un vendeur de boissons avec 23 votes pour 21,9% contre 21 votes et 20% des voix pour la déclaration de Christian Horner sur Mercedes. Bravo Lewis, tu as un SAV d'or.
T'en as au moins un.
Voilà. T'en auras au moins deux, ça sera.
Oui. Ça a quand même été très serré, Entre oui. le premier et le cinquième, Glock il a 16, Alonso a 17, Alguersuari 20, Horner 21 et Lewis 23.
Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une belle phrase quoi.
C'est une belle phrase. Même si elle est fausse.
Oui, puis même surtout si elle n'est pas nouvelle, parce que il me semble déjà que Mercedes l'avait sorti fin 2010. T'avais d'ailleurs fait un drive-thru, je crois, là-dessus. En disant que, on devrait plus appeler ça un championnat de constructeurs parce qu'en fait, ils sont pas là pour construire les voitures.
Bah si.
Bah oui. Et la preuve, ils les construisent, ils gagnent avec, donc.
Parce que c'est un constructeur de F1.
Bah quoi, qu'ils font aussi des voitures.
Oui, ils font des voitures dans GT5 aussi.
Oui, puis la Red Bull Car, quand même, c'est une voiture. La voiture qui ne sert à rien.
C'est une Mini.
Mais sincèrement, qui a déjà compris à quoi servait une Red Bull Car? Moi, je sais pas. À la limite, la Google
Car... Mais pas comme s'il y avait du Red Bull dedans, quoi. Il n'y en a même pas.
Oui, non, voilà, je ne comprends pas. C'est à part faire rouler deux jolies filles, les payer pour rouler toute la journée dans une ville, ça... Voilà.
En même temps, c'est ce qu'on disait déjà de Benetton. Benetton n'est pas un constructeur. Ah ouais, c'était un vendeur de pulls.
Oui, voilà.
C'est un champion du monde de F1.
Je sais même pas si on a parlé de la phrase de Lewis.
Je crois qu'on a... En même temps, on a beaucoup parlé de Lewis cette année.
Oui. Bon, au pire, si on trouve rien, on vous balancera bien un truc. Il y a bien quelque chose qu'on peut vous donner, quoi.
Oh, bah oui.
Et donc, en troisième position, arrive une nouvelle qui, je le sais, va faire parler, puisque nous aimons parler de lui. Nous allons parler du magnifique, de l'incroyable, du formidable, de l'extraordinaire, de l'excellentissime.
Va falloir expliquer tout ça. Hein.
Nous allons parler de Lewis Hamilton et de Red Bull, puisqu'il s'avère qu'il y aurait des tensions entre Lewis Hamilton et Red Bull.
Alors ça a commencé comment? C'est Red Bull qui a commencé ou c'est Lewis?
Techniquement, c'est Red Bull qui a commencé en disant que, voilà, Lewis dans la voiture. Enfin, ils ont parlé de Lewis chez Red Bull. Mais Lewis a répondu.
Oui.
Grosso modo, lui, ce qu'il a répondu, c'est que, pour lui, Red Bull, enfin, ce qu'avait dit Mercedes l'an dernier, Red Bull n'était pas un constructeur. Voilà. D'ailleurs, au passage, il a tendance à oublier que McLaren, jusque très récemment, n'était pas non plus un constructeur.
Pas un constructeur.
Donc, voilà. Et qu'il y a quand même plein de champions du monde qui ont fait leur carrière et qui ont gagné des titres sans être chez un constructeur.
Exactement. Ouais, c'est vrai que moi qui l'aime bien, Lewis. Ouais, ça va. On va parler de la course après, hein.
Merde.
Alors bon. Merde. Non, mais je veux dire, c'est sûr que c'est vraiment typiquement ce que j'ai dit sur Fan F1 d'ailleurs. C'est typiquement l'argument idiot, bête, parce que c'est vrai que, comme tu dis, si on remonte qu'il n'y a pas très longtemps, Williams était champion, Benetton était champion, c'est vraiment. Brown était champion, oui, puis même on peut remonter beaucoup, beaucoup plus loin, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est un argument un peu idiot. Je pense qu'il vaut mieux que ça, Hamilton, dans ses déclarations. Je pense qu'il devrait se calmer. C'est ce que je disais, c'est que son directeur de la com devrait peut-être un peu le tenir en laisse, parce que c'est vrai que ce genre de déclaration, ça lui donne pas. Parce que les gens qui lisent ça en général sont des gens qui connaissent la F1, qui sont pas des néophytes. Et au final, je pense que ça le dessert vraiment. Ouais. C'est dommage de. Puis c'est dommage surtout de rentrer dans le jeu de Red Bull qui aime beaucoup lancer des petites polémiques comme ça.
Mais c'est ça le pire.
Donc à mon avis, il aurait mieux fait de se taire.
Au départ, voilà, c'est Red Bull qui lance. Il aurait pu trouver un moyen de répondre, mais d'une manière un peu rigolote. Je suis désolé, je vais défendre mon poulain, mais de répondre à la Vettel, quoi. C'est-à-dire que Vettel, il aurait sorti une réponse rigolote, décalée. Non, en fait, il a essayé de tacler, il a essayé d'être méchant, d'être vexant, et enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti, quoi.
Ouais, mais totalement.
Ça a d'ailleurs été un peu chaud ce week-end, tous les mots, hein. Oh, bah, pour des canettes, on roule pas mal, etc.
Non, puis c'est un peu se priver d'une possibilité. Alors bon. D'ici là, l'or a coulé sous les ponts. Bon, bien sûr, c'est une hypothèse. Hein, on voit mal Hamilton quitter McLaren. Oui. Mais qui sait hein, et bah, c'est sûr, ça pourrait être tentant. Hein,
Bah, ouais, surtout, voilà, surtout avec la saison qui se prépare. Il y a des chances que ça devienne très attrayant, surtout qu'il y a quand même une place de libre. Et est-ce que Hamilton, de toute façon, ça va être Hamilton de juger, parce que est-ce qu'on se prépare une période de domination Red Bull intense, en sachant qu'il y a quand même un ingénieur qui est très très bon en la personne de Newey. Est-ce que, bah alors c'est sûr que c'est quand même difficile. Je pense que Hamilton se pose pas la question, au moins non. En ce moment en tout cas. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Hamilton c'est quand même un champion qui a pas eu de chance au niveau des saisons parce qu'il est champion. Bon, il peut être champion 2007, il se rate. Il est champion 2008 et malheureusement dès 2009 la donne change complètement, redistribue les cartes. Et on passe d'une écurie McLaren qui dominait à une écurie qui n'est plus exactement sur le devant de la scène. Et ça fait trois saisons. Enfin, je compte celle-ci, mais parce que ça risque d'être comme ça. Mais ça va faire peut-être trois saisons qu'il va courir après le titre, tout en sachant qu'il pourrait déjà en avoir deux. Est-ce qu'il va pas se dire lui dans sa tête pour gagner autre chose, il faudra que je parte. C'est la question que je me pose.
Et puis même, enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi un contraste par rapport à Vettel quand on voit toutes les déclarations de Vettel pendant l'hiver par rapport à Ferrari, etc. Où il était très subtil en mettant la pression sur Red Bull en disant je veux une bonne voiture, etc. On a l'impression d'avoir un Lewis qui est aveuglément McLareniste et qui rejette en bloc parce que par principe, par valeur, parce que c'est pas un constructeur ou parce que c'est pas
entre guillemets
une écurie prestigieuse de la Formule 1 pour le moment, il rejette cette écurie en disant voilà de toute façon j'irai pas, c'est pas un constructeur automobile. On a l'impression d'avoir au contraire un pilote qui ne fera peut-être pas forcément les meilleurs choix dans sa carrière et qui est peut-être un petit peu trop fidèle. Et on a des exemples de pilotes qui ont le potentiel, qui pourraient être de très grands champions, mais qui n'ont pas forcément fait les choix de carrière qui étaient les plus adéquats. Certains, c'est en partant dans d'autres écuries, on se rappelle Hill, on se rappelle Villeneuve. Bon, eux, ils n'avaient pas forcément toujours vraiment le choix de partir.
Ouais. Ouais, voilà,
Et il y en a certains, c'est justement en étant fidèles jusqu'au bout, à leur écurie, et ça pourrait très bien les perdre. Alors que, en face, c'est vrai qu'on a un Vettel qui dit, moi, je resterai tant que j'ai une bonne voiture, le jour où Red Bull est plus capable de m'offrir une bonne voiture, j'irai ailleurs. Ça veut dire que vraiment, on a quelqu'un qui, au sein de l'équipe, met la pression, un peu comme Alonso l'an dernier, met la pression, essaye de guider techniquement l'équipe pour les pousser dans leur retranchement. Alors que McLaren, on a vraiment l'impression que Hamilton se dit, voilà, je fais une bonne équipe, je fais confiance aux gars, mais qu'il ne leur met pas la pression. Et des fois, c'est bon de mettre la pression à une équipe.
Et je pense, oui, en effet, que si Hamilton part, j'ai pas l'impression que ce serait une question de performance. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, ce sera peut-être plus une question de personne. Je sais que, parce que cette histoire d'Hamilton qui part de McLaren, ça ressort quasiment tous les 6 mois. Hein. Et c'est vrai qu'il y a encore 2-3 ans, quand on posait la question, je me disais, c'est possible si Mercedes prend le contrôle de l'équipe. Parce que forcément, s'il prend le contrôle de l'équipe, les gens changent, la structure change, c'est plus vraiment la même équipe. Et là, il aurait une raison de partir. Là, au contraire, McLaren, c'est au contraire plutôt anglicisé.
Ouais.
Et donc, c'est les gens qui l'apprécient qui sont toujours là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je pense qu'en plus, oui, s'il part, ça sera pas du tout pour une question de... Ça sera pas parce que McLaren aura fait une mauvaise voiture. Ou alors, faudrait vraiment que plusieurs années de suite, la voiture soit très mauvaise.
Ben oui, mais est-ce que, enfin, moi, je me souviens d'une déclaration, je me souviens plus de la déclaration exacte, mais je crois que c'était, je veux être une légende. Ouais. Est-ce que il va supporter? Parce que, oui. Ça va quand même être frustrant d'avoir été au top 2 saisons d'affilée. Mmh. Et depuis que le règlement a été rechangé, malheureusement, d'avoir une voiture qui est certes très bonne, qui lui permet de se battre pour la victoire parfois, mais quand même qui ne lui permet pas, on l'a bien vu l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, jusqu'en Belgique, il y a eu quelque chose, on y a cru, mais c'est vrai qu'après, la McLaren n'a malheureusement pas été à la hauteur des 2 autres écuries. Est-ce qu'il va supporter ça longtemps? Moi, je sais pas. Je pense que oui. Mais après, est-ce que dans sa tête, il va pas se dire, oui, mais tiens, j'ai quand même 26, 27, 28 Est-ce qu'au bout d'un moment, je vais quand même pas avoir envie de partir pour une écurie qui permettra de gagner? Mais enfin, bien sûr, dans l'idée que McLaren n'arrive pas à gagner d'ici
alors
là.
Alors qu'en plus, en ouais. face, il y a quand même des pilotes comme Vettel, comme Alonso, qui ont les dents totalement acérées et qui, on l'a vu avec Alonso, qui avait dit McLaren c'est mon rêve, pour ensuite aller dire mon rêve c'est Renault, puis ensuite après dire non mais mon rêve ouais, c'est voilà. Ferrari. Et en face des mecs qui sont prêts à prendre des choix de carrière difficiles, quitte même à abandonner des équipes, etc., pour gagner. Et c'est vrai que je souhaite pas McLaren, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a encore 10 ans, Williams c'est une référence en Formule 1. Aujourd'hui, Williams c'est une écurie sympathique qui est en milieu de peloton. Attention, parce que McLaren, ils sont en pleine restructuration, ils envisagent de faire leur propre moteur, etc. Rien ne dit que dans 10 ans, McLaren sera toujours une référence de la Formule 1. Et la preuve, on le voit avec Red Bull, on l'a vu avec Brawn, il y a des écuries qui sont capables de s'insérer et de marquer à leur tour l'histoire et de remplacer certaines autres. Donc faut avoir un regard lucide sur ce qui se passe, et comme tu l'as dit au départ, Shinji, ne pas se fermer une porte, quoi. C'est faut éviter de se fermer des portes, même si on comprend le discours un peu corporate, etc. Mais éviter de se fâcher avec certaines personnes.